Le journal vous est présenté par Clotilde Ravel.
Bonsoir à toutes et à tous. Monsanto condamné pour avoir caché la dangerosité du glyphosate. La firme doit verser 289 millions de dollars à un jardinier américain atteint d'un cancer en phase terminale. Aux États-Unis, cette décision ouvre la voie à un déferlement judiciaire, nous dira Laura Dulieu. Et nous recevrons également dans ce journal le militant chercheur Martin Pigeon. Nous irons ensuite en Afghanistan où les talibans affirment avoir pris le contrôle de Ghazni, ville située sur un axe routier stratégique. Les autorités afghanes, quant à elles, démentent les précisions de notre envoyée spéciale Sonia Ghezali. Vous entendrez également dans ce journal le neurochirurgien Jean Chazal. Il réagit à la mort d'un joueur de rugby de 21 ans, membre du club d'Aurillac, et alerte sur les dangers des commotions cérébrales. Selon lui, les règles du rugby doivent absolument évoluer. 289 millions de dollars de dommages, soit 253 millions d'euros. C'est la facture que doit payer Monsanto, numéro 1 mondial de l'agrochimie et producteur de l'herbicide Roundup. Le plaignant, un Américain de 46 ans, Dwayne Johnson, il avait utilisé massivement les deux désherbants de la firme avant d'être atteint d'un cancer lymphatique. Laura Dulieu, bonsoir.
Bonsoir.
Aux États-Unis, on s'attend désormais à un déferlement judiciaire contre Monsanto.
Oui, les jurés californiens pourraient bien avoir ouvert une véritable boîte de Pandore. Entre 4 et 5 000 procédures semblables attendent Monsanto à travers les États-Unis, sans compter les autres plaintes qui risquent d'arriver après ce jugement. Les avocats du jardinier appellent d'éventuelles nouvelles victimes à se faire connaître. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis que le ciel s'assombrit pour Monsanto. Deux procédures sont en cours en France. Dans 5 ans, l'Europe décidera de l'interdiction du glyphosate et au Brésil, un juge fédéral a ordonné la semaine dernière l'interdiction des herbicides à base de glyphosate, le temps que la substance soit réévaluer. Alors aucun doute que la firme fera durer au maximum les procédures. Elle a d'ailleurs annoncé qu'elle ferait appel du jugement d'hier soir. Mais le temps presse car le jardinier Dwayne Johnson est atteint d'un cancer lymphatique. Selon ses médecins, il n'a plus que 2 années à vivre. Les conséquences pourraient aussi être lourdes pour le groupe Bayer qui a racheté Monsanto en juin. À cause de la très mauvaise image de la firme, Bayer a annoncé que la marque Monsanto disparaîtra, absorbée par le géant pharmaceutique. Bayer qui n'a pas voulu préciser s'il avait commencé à provisionner ses comptes pour faire face aux milliers de procédures qui arrivent et donc, en cas de condamnation définitive, pour indemniser les victimes.
Monsanto, condamné en première instance, vous l'avez dit, et qui a donc fait appel. Merci, Laura Dulieu. Pour évoquer ce sujet, nous sommes en ligne avec Martin Pigeon, militant chercheur et spécialiste de l'étude des lobbies de l'agrobusiness à l'ONG Corporate Europe Observatory, l'un des organisateurs également de l'initiative européenne Stop Glyphosate. Martin Pigeon, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de Dwayne Johnson a qualifié cette décision du tribunal de San Francisco d'historique. Est-ce que vous souscrivez vous aussi à cette analyse ?
Alors absolument, au sens où c'est un précédent. Ça crée un précédent. Il n'y avait pas de décision de justice établissant un lien de causalité pour un utilisateur professionnel comme Dwayne Johnson par rapport au fait que l'utilisation qu'il a faite du Roundup a causé son cancer, son lympho.
Qu'est-ce qui va changer après cette décision du tribunal de San Francisco ?
Alors, pas grand-chose au départ, dans le sens où bon, Monsieur Johnson va être indemnisé, sauf que Monsanto a prévu de faire appel. Donc, malheureusement, Monsieur Johnson a une espérance de vie, d'après ses médecins, qui s'interrompt en 2020 à peu près. Donc, est-ce qu'il sera encore vivant à la conclusion de l'appel de Monsanto ? Ça, on ne sait pas. Après, ce qui est très intéressant, par contre, c'est la décision du jury, et la réaction de Monsanto aussi à l'issue du verdict, parce que ce que les avocats de M. Johnson ont démontré, c'est que depuis des années, depuis près de 40 ans, Monsanto est au courant des risques posés par le Roundup, a tué des conclusions d'études internes qui montraient ces risques-là. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, c'est que le glyphosate n'est jamais utilisé seul. Or, le problème, c'est que c'est ce qui est autorisé par les agences de régulation aussi bien américaines qu'européennes. Et c'est d'ailleurs pourquoi Monsanto passe sa vie à répéter que la science est de leur côté, que les agences des réglementations pensent la même chose, et que le glyphosate n'a pas causé le cancer, ne cause pas le cancer, et n'a pas causé le cancer de M. Johnson. Nous sommes désolés pour lui, pour son cancer, etc. Pourquoi M. Parrish utilise-t-il le mot « glyphosate » alors que le procès a porté sur le produit Roundup ? C'est parce que il sait qu'il y a des documents internes de Monsanto qui disent « le Roundup pose problème ». Et donc, s'il dit ça, il va mentir. s'il dit le glyphosate ne pose pas de problème, en interne, a priori, il peut défendre la bonne foi, ce qui ne serait pas le cas s'il parle du Roundup.
Merci Martin Pigeon d'avoir été l'invité du journal de France Culture. Un bilan qui s'alourdit en Grèce après l'incendie qui a dévasté la région à l'est d'Athènes. Le feu s'était déclaré le 23 juillet dernier. Bilan désormais de 94 morts après le décès aujourd'hui à l'hôpital d'une femme blessée dans le sinistre. Par ailleurs, plus de 30 personnes sont toujours hospitalisées. La ville carrefour de Ghazni en Afghanistan, coupée du monde. Elle est située à 200 km au sud de Kaboul, sur un axe routier stratégique. Les talibans affirment avoir pris le contrôle de cette ville. Les autorités afghanes, quant à elles, démentent. Les insurgés ont lancé leur assaut dans la nuit de jeudi à vendredi et multiplient depuis hier les communiqués triomphants. On fait le point avec Sonia Ghezali à Kaboul.
Toutes les lignes téléphoniques sont coupées à Ghazni. Impossible de joindre un habitant. Les pylônes électriques ont été endommagés. La ville, sans électricité, est coupée du reste du pays. Si certains médias affirment que des échoppes de commerçants ont rouvert leurs portes depuis hier, aucune information fiable ne permet de l'affirmer. Selon certains responsables locaux, des tirs et des explosions retentissent encore. Depuis le début de l'assaut des talibans sur la capitale provinciale, les insurgés multiplient les messages de victoire sur les réseaux sociaux et dans leurs communiqués. Ils déclarent contrôler la ville et avoir mis en déroute les forces de sécurité afghanes. C'est faux, a répété le porte-parole du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Des centaines de commandos sont arrivés en renfort, a-t-il indiqué, précisant que des opérations de nettoyage étaient en cours. Objectif, débusquer les insurgés qui se seraient cachés chez les habitants. Aucun média à Kaboul ne se risque à confirmer ni infirmer le contrôle de la ville par les talibans ou les forces de sécurité, tant la situation est confuse. Des membres du conseil provincial de Ghazni ainsi que des députés accusent ouvertement le gouvernement afghan de ne pas avoir pris la mesure du risque imminent d'une offensive des insurgés.
Sonia Ghezali pour France Culture. Un attentat suicide déjoué en Égypte, attentat qui visait une église au nord de la capitale. La présence des forces de sécurité a conduit l'assaillant présumé à faire détonner sa ceinture explosive sur un pont à 200 mètres de l'église. Le kamikaze a été tué, mais les médias d'État n'ont pas évoqué de victimes. L'état d'urgence décrété dans deux comtés de Californie, l'incendie baptisé Holy Fire, fait rage à 130 km au sud-est de Los Angeles. Depuis 24 heures, les flammes sont toutes proches des habitations de la ville d'Elsinore, une ville de 60 000 habitants. Les 600 pompiers déployés doivent redoubler d'efforts, car les flammes ne cessent de gagner en intensité, alimentées par des rafales de vent et une végétation très sèche. Week-end sous tension à Washington, il y a tout juste un an, la ville de Charlottesville en Virginie a été le théâtre d'extrême violence entre des suprémacistes blancs, des néo-nazis et des contre-manifestants. Un militant néo-nazi avait foncé en voiture dans une foule de contre-manifestants et tué une jeune femme de 32 ans. Demain, différentes mouvances d'extrême droite appellent à un nouveau rassemblement, cette fois à Washington, à deux pas de la Maison Blanche de Donald Trump. Plusieurs contre-manifestations sont également annoncées dans la capitale fédérale, mais les autorités veulent tout faire pour éviter les violences de l'an passé. À Washington, Grégory Phillips.
Tandis qu'à Charlottesville, l'état d'urgence a été décrété, qu'a priori aucun rassemblement ne sera autorisé. À Washington DC, les néo-nazis ont obtenu un permis de manifester demain en fin d'après-midi dans un parc situé juste en face de la Maison Blanche. Les autorités attendent environ 400 suprémacistes blancs et deux contre-manifestations sont également annoncées, dont l'une au même endroit. Le rassemblement néo-nazi est autorisé en vertu du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. La municipalité et la police ont fait savoir qu'elles mettraient tout en œuvre pour que les manifestants des deux camps ne puissent ni se croiser ni s'affronter. Il a même été envisagé d'affréter un métro spécial pour les sympathisants néo-nazis, mais l'autorité des transports a renoncé. L'an passé, les événements de Charlottesville avaient été suivis d'une vive polémique provoquée par les propos de Donald Trump qui avait jugé que les deux camps, extrême droite et contre-manifestants, portaient une part de responsabilité. Cette fois, c'est sous les fenêtres du président, au cœur de la capitale fédérale, que des néo-nazis vont défiler.
Une nouvelle manifestation prévue ce soir à Bucarest en Roumanie. Hier soir déjà, quelques 80 000 Roumains, dont des milliers d'expatriés, revenus spécialement dans leur pays, accompagnés pour certains de leurs enfants, s'étaient rassemblés place de la Victoire pour dénoncer la corruption du gouvernement. Mais le rassemblement a vite dégénéré. 450 personnes ont été blessées après avoir inhalé des gaz de poivre et lacrymogènes abondamment utilisés par les forces de l'ordre pour évacuer la place. Pour fuir la répression au Nicaragua, répression menée depuis le printemps par le président Daniel Ortega qui dirige le pays d'une main de fer, des milliers de Nicaraguayens se pressent à la frontière du Costa Rica, un pays où les demandes d'asile explosent selon les Nations Unies. Pour l'instant, le Costa Rica parvient à faire face à ces arrivées, mais s'inquiète de la crise politique chez son voisin Bertrand Galichet.
Plus de 23 000 personnes ont déjà demandé l'asile au Costa Rica depuis le début de la crise politique au Nicaragua. Les opposants nicaraguayens cherchent spontanément refuge de l'autre côté de la frontière, explique Erika Guevara, spécialiste de l'Amérique latine à l'Université Paris 8.
Il y a vraiment une politique qui est plutôt de solidarité envers les migrants qui viennent du Nicaragua. Effectivement, il se peut que les institutions soient débordées. Actuellement, il y a effectivement beaucoup plus de demandes que ce que le gouvernement a l'habitude de traiter. Mais il y a plus de 400 000 personnes d'origine nicaraguayenne au Costa Rica. Et donc il y a beaucoup de familles aussi qui vont accueillir les migrants.
Quelle est la conséquence de cette situation sur les relations entre les deux gouvernements, celui du Costa Rica et celui du Nicaragua?
Il y a des tensions diplomatiques très fortes à la frontière entre les deux pays depuis l'arrivée de Daniel Ortega. Le problème que vit le Nicaragua actuellement ne fait qu'augmenter ces tensions.
Pour autant, le Costa Rica préfère se tenir à l'écart des violences politiques chez son voisin du Nord, en misant sur une possible chute du régime de Daniel Ortega, mais le président nicaraguayen, qui a le soutien de l'armée, s'accroche au pouvoir.
Un joueur de rugby d'Aurillac, Louis Fajrovski, 21 ans, est décédé hier soir pendant une rencontre amicale de son équipe face à Rodez. Il est décédé vers 20h après avoir quitté le terrain en cours de match, victime d'un plaquage. Un événement dramatique qui relance la question de la dangerosité des chocs de plus en plus violents entre des joueurs de plus en plus puissants. Depuis 10 ans, le neurochirurgien Jean Chazal alerte sur ces risques.
Le rugby a changé, ça n'est plus un sport d'évitement, c'est devenu un sport de combat, de contact direct. Les rugbyman ont changé. Alors on disait à l'époque, à une certaine époque, il y avait des exceptions comme le fameux joueur John Alomou, mais le rugby fabrique de plus en plus d'exceptions, d'exceptions physiques et physiologiques. Le poids minimum actuellement top 14 c'est 75 kilos, le poids maximum c'est 140 kilos. Mais je crois que au-delà de ça, il y a la force aussi développée par le rugbyman de plus en plus musclé. Et c'est probablement ce qui s'est produit hier, c'est un contact entre deux joueurs très violents. Lancé probablement à grande vitesse, l'un d'eux a été arrêté brutalement et on verra, mais il est possible que ça ait entraîné une lésion soit thoracique, soit abdominale, soit intracrânienne avec la suite malheureuse qu'on connaît. Dans l'immédiat, il y a une urgence, c'est de créer une commission indépendante d'experts qui analyse ce qui s'est passé, parce que ça n'a jamais été fait. On ne peut plus se contenter de dire le rugby a évolué, c'est devenu un sport de combat, ce sont des accidents de jeu ou malencontreux, ça c'est plus possible. C'est pas un discours qu'on peut entendre aujourd'hui, le lendemain de la mort d'un joueur.
Les deux responsables allemands de la colonie de vacances installée sans autorisation à Saint-Julien-de-Pérolas dans le Gard ont été mis en examen. Lors de l'inondation du terrain, 138 enfants allemands se trouvaient en colonie de vacances. L'un de leurs encadrants, un Allemand de 66 ans, est toujours porté disparu. Un festival indépendant, écologique et éthique, c'est l'ambition du festival No Logo qui se déroule actuellement à Frézan dans le Jura. La manifestation est totalement indépendante financièrement, pas de subventions publiques, de mécènes ou de sponsors, pas de bénévoles non plus, tout le staff travaillant sur le site est rémunéré. Principale recette, les entrées, un choix des organisateurs qui ont également décidé d'ancrer le festival reggae dans le territoire franc-comtois. Romain Chevalier.
Ici, vous ne trouverez pas de marques de boissons célèbres ou de noms de grands industriels, mais seulement des producteurs locaux comme Sébastien.
On est maraîcher bio en Haute-Saône, donc on produit des légumes. Et pour le festival, on a fait monter de chez des amis des fruits de la Drôme.
C'est la première fois qu'il participe à No Logo et ce qui l'a séduit, c'est la philosophie du festival.
On est vraiment dans le domaine du circuit court, du bio, de l'équitable.
Faire fonctionner l'économie locale, voilà l'esprit de No Logo. Florence Enseigne, le directeur du festival, souhaite que cet événement mette en valeur son territoire.
95% des prestataires sont franc-comtois. On a 240 salariés à peu près par le festival et on doit en avoir 95% pareil qui sont franc-comtois.
Outre l'aspect économique, la démarche écologique est aussi au cœur de la manifestation. Elisa vend de la nourriture depuis la première édition et elle reste étonnée par la propreté du lieu.
J'ai fait beaucoup de festivals, c'est le premier festival où on passe sans arrêt, nous donner un compost, nous donner des sachets pour bien trier nos déchets, on repart, tout est nickel.
Les festivaliers jouent aussi le jeu à l'image d'Elodie.
Nous on fait attention à nos déchets, on ramasse nos mégots. C'est 3 jours à la cool, mais non, faut pas oublier les bonnes règles.
Des efforts récompensés puisque l'an dernier, le festival a reçu un prix pour sa démarche environnementale.
Le temps pour la journée de demain, de la Bretagne jusqu'à la frontière belge, un ciel nuageux dès le matin et des pluies parfois orageuses ensuite. Sur le reste du pays, du soleil. Au petit matin, les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés sur le nord-est, 12 et 16 degrés ailleurs. L'après-midi, des maximales en hausse avec 20 à 23 degrés sur la Bretagne et le Cotentin, 24 à 32 degrés sur la moitié nord et 28 à 34 degrés dans le sud.